Bonjour à vous tous, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver avec moi 1 Thessaloniciens et le premier chapitre. La semaine passée, à Grand-Roissy, nous avons regardé la fondation de cette église, l'implantation de cette église, surtout d'après les textes en Actes, Actes 17, qui raconte la visite de Paul, Silas et Timothée à Thessalonique. Et seulement quelques mois plus tard, peut-être 8-10 semaines plus tard, Paul écrit cette lettre. C'est une de ses premières lettres. Je crois que c'est probablement la deuxième lettre écrite par Paul après celle aux Galates. Et il écrit à cette église tout récemment fondée, qui n'existe que depuis quelques temps, très peu de temps. Et il dit ceci, écoutez la parole inspirée de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tous convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors nous aurons trois choses à considérer dans ce premier verset qui dit ceci, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous voyons dans ce verset d'abord les ministres au nom desquels est faite cette lettre. Et puis deuxièmement, l'Église à laquelle il l'adresse. Et puis troisièmement, le souhait qu'ils font pour elle. Mais nous allons ce matin nous attarder sur ce premier de ces trois choses, c'est-à-dire les ministres au nom desquels est écrite à cette lettre. Voici donc notre texte au tout début, Paul, Sylvain et Timothée. Notre nom pour Sylvain, c'est Silas. Luc utilise ce nom Silas, la forme Silas. En acte, Paul utilise comme pour lui-même d'ailleurs le nom romain. Il utilise Paul pour lui-même et Sylvain en parlant de Silas. Ce sont les expéditeurs, si vous voulez, expéditeurs. Et le Saint-Esprit a choisi d'inspirer cette lettre en soufflant sa pensée, en dirigeant les paroles non seulement d'un seul homme devant son parchemin avec son stylo à la main, mais en se servant de la concordance de ces trois hommes distincts. Alors Paul est certainement l'auteur principal. Plus tard dans la lettre, il va dire « Moi, Paul, en tout cas, j'ai essayé de venir vers vous deux fois. » Mais les deux autres sont associés avec lui et posent, si vous voulez, leur signature sur la lettre et participent d'une façon ou d'une autre à la rédaction de cette lettre. Et donc, il vaut la peine de les considérer un peu plus et de savoir ce que nous pouvons apprendre d'eux. Et donc, premièrement, il y a cet apôtre que je vais caractériser ici dans cette lettre comme humble et plein d'amour. Et un pasteur protestant au temps de l'édit de Nantes, c'est-à-dire avant sa révocation, qui s'appelait Michel le Faucheur. Donc, je viens d'apprendre de lui cette semaine. Il est né à Genève vers 1585, donc une vingtaine d'années après la mort de Jean Calvin, d'une famille de réfugiés, des Français qui sont venus probablement de La Rochelle pour s'installer à Genève à cause de la persécution contre les protestants en France. Et il a donc grandi dans ce milieu, et ses talents théologiques considérables ont fait qu'on l'a nominé à l'âge de 18 ans seulement comme pasteur de l'église protestante à Dijon, en Bourgogne. Donc il est resté célibataire en fait toute sa vie, mais il a eu un ministère très béni de Dieu parmi les églises protestantes, évangéliques on va dire, dans toute la France. À tel point que dans l'automne de 1632, il a été convoqué par le cardinal Richelieu. Richelieu est en fait né la même année que lui, ils avaient exactement le même âge. Et il se trouvait à l'époque dans le sud de la France avec le roi Louis XIII. Et Richelieu cherchait à le gagner vers l'Église catholique. Et donc il a offert 10 000 francs à ce pasteur, qui, vous pouvez imaginer, les a refusés. Et ça lui a coûté cher, parce qu'il a trouvé une interdiction de prêcher. À cette époque, il y avait une certaine liberté pour les protestants dans certaines villes, à cause de l'édit de Nantes. C'était avant sa révocation, où il n'y avait carrément plus de liberté pour les chrétiens évangéliques. Donc il y avait une certaine liberté, mais le roi quand même contrôlait les choses et pouvait interdire à quelqu'un de prêcher. Et donc pour 6 ou 7 années, il était sous cette interdiction de prêcher en France. Mais il a prêché sur cette lettre aux Thessaloniques et ses sermons demeurent encore. Et il a dit ceci de l'apôtre Paul, il a dit « Comme entre toutes les charges que les hommes ont exercées par la commission de Dieu sur la terre dès le commencement des siècles, il n'y en a jamais eu ni de si importante que celle des apôtres, qui ont été immédiatement appelés par la bouche de son Fils pour y fonder et établir son règne et pour amener les élus à la vie éternelle, ni de si ample, c'est-à-dire large, puisqu'ils avaient pour leur diocèse tout l'univers, ni de si difficile, vu qu'il était question d'abroger la loi de Moïse parmi les Juifs, d'éteindre l'idolâtrie parmi les païens, de faire reconnaître aux uns et aux autres l'évangile de Jésus-Christ, et en un mot, de faire un monde tout nouveau. » Je crois que ça nous aide à apprécier l'œuvre qu'avait l'apôtre Paul, la difficulté qui était devant lui, l'impossibilité humaine même de pouvoir fonder des églises dans n'importe quelle ville. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire de l'apôtre, mais nous allons mentionner 3 qui ressortent de cette lettre. Et la première a à faire avec son humilité. Et je veux vous montrer, en fait, ce qui n'est pas dans cette salutation. Vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est dans presque toutes les autres lettres écrites aux églises. Il y a 9 lettres écrites par Paul aux églises, et puis 4 de plus aux individus. Et nous allons regarder plusieurs de ces lettres. Alors, je vous demande de trouver Romains chapitre 1. Et puis, nous allons trouver, ça va vous faire un peu travailler, donc même les jeunes, si vous avez vos Bibles, je vais vous voir en train de tourner les pages. Romains chapitre 1. Alors là, c'est pas dans l'ordre qui les a écrites, mais c'est dans l'ordre qu'elles se trouvent dans nos Bibles. Ça sera plus facile pour nous. Les Romains et la ville de Rome étaient, quand il a écrit cette lettre, ils n'avaient jamais encore visité Rome. Donc, ils ne connaissaient pas ces chrétiens. Et donc, c'est normal qu'il doit montrer ses qualifications pour eux en leur écrivant. Et donc, Romains 1, verset 1, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être quoi ? Apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Il est appelé pour être apôtre. Alors, trouvez 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 1, et il commence ainsi, Paul appelé à être, quoi ? Apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'envoyé spécial de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alors, il commence ainsi. Ce qui est intéressant, c'est avec les Corinthiens qui étaient dans l'Achaïe, donc au sud de Thessalonique, au sud de la Macédoine, il doit argumenter ce fait. Il va dire au chapitre 9 de cette lettre, « Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes vous-même le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. » Il va argumenter le fait parce qu'il résiste à la pensée que Paul soit apôtre et ait cette autorité. Il doit encore le rappeler ceci en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, où il dit « Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres ». Un petit rappel de l'autorité qu'avaient les apôtres. Et plus tard, dans cette même lettre, il dit, chapitre 15, c'est vrai, « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais le Seigneur m'a appelé par sa grâce, je le suis, et j'ai même travaillé plus que tous. » Regardez 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, sa deuxième lettre aux Corinthiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc un envoyé spécial de Jésus-Christ, mais par la volonté de Dieu. Et là encore, il revient si en chapitre 11 de cette lettre, 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 5 et 6, il dit « J'estime cependant n'être en rien inférieur à ces super apôtres. » Ça, c'est la traduction de Bible de Semeur. C'est-à-dire, il y avait des gens qui sont venus à Corinthe et qui se disaient apôtres et qui étaient apparemment beaucoup plus impressionnants que Paul lui-même. Et donc, avec un peu d'ironie, il les appelle des super apôtres. Mais il dit, je ne suis, verset 6 peut-être, pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. Nous vous en avons donné la preuve à tous égards et en toutes circonstances. Et il dira un chapitre plus tard, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 11, voilà que je parle en insensé, mais vous m'y avez forcé. C'est vous qui aurez dû me recommander, c'est-à-dire recommander aux autres en tant qu'apôtre, car bien que je ne sois rien, je ne suis en rien inférieur à ces super apôtres. Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous. Une persévérance sans faille, des signes miraculeux, des prodiges, des actes extraordinaires. Pourquoi nous n'avons pas de nos jours ces prodiges, ces signes miraculeux, parce qu'ils servaient de signes des apôtres. Et nous n'avons plus d'apôtres parmi nous. Et verset 13, « En quoi avez-vous été défavorisés par rapport aux autres églises ? Tout au plus par le fait que je ne vous ai pas été à charge, c'est-à-dire je ne vous ai pas donné de facture. Pardonnez-moi cette injustice, il dit. » On voit le sarcasme qui sort dans sa lettre. Verset 22, sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par des travaux bien plus, par des coups bien plus, par des emprisonnements bien plus, souvent danger de mort. Et continue dans cette veine très très longtemps en fait. Mais il dit, vous l'avez forcé de le faire. Je dois défendre mon apostolat. Je dois défendre le fait que je sois vraiment apôtre. Et ça démontre un peu la relation qu'il avait avec ses Corinthiens. Trouvez Galates chapitre 1, écrite, ça c'est sa première lettre, écrite donc aux églises fondées lors de son premier voyage missionnaire, quand il est parti avec Barnabas. Et là aussi, il y avait des gens dans ces églises qui questionnaient son autorité, son droit de pouvoir vraiment parler de la part de Christ. Et donc il dit, Galates 1, Paul, apôtre. Et regardez comment il le souligne. Non de la part des hommes, ni par un homme. C'est-à-dire, pas de la volonté de l'homme, mais ni par un moyen humain. Ce n'est pas Pierre qui est venu vers moi imposer ses mains sur moi. Mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et au Galates, il va devoir prouver qu'il a reçu son enseignement directement de Jésus-Christ. En fait, il va donner un peu son itinéraire dans ce premier chapitre pour dire quand Christ m'a sauvé, je ne suis pas allé à Jérusalem, je suis allé ailleurs et c'est Christ lui-même qui m'a donné l'évangile de sa propre bouche. J'ai vu le Christ, il m'a enseigné personnellement. Et puis il dit finalement, quand je suis plusieurs années après à Jérusalem, ils m'ont accepté en tant qu'apôtre. Il dit, Galates 2, verset 9, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme des colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi, en signe d'accord et de communion. Trouvez Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Encore une lettre probablement destinée à plusieurs églises, donc des gens qui ne connaissaient pas. Éphésiens, c'est peut-être la moins personnelle de toutes les lettres de Paul, on trouve les moins de détails de sa vie. Mais commence ainsi Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Alors sautons Philippiens pour le moment, on y reviendra. Trouvez Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, encore une église qu'il n'avait pas rencontrée et donc à qui il est nécessaire de présenter ses qualifications. Il commence ainsi Colossiens 1, verset 1, Paul, toi, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Cela nous laisse trois lettres, écrites en fait à deux églises dans la Macédoine. Une lettre à l'église de quoi? De Philippe, hein, Philippiens. Et puis deux lettres à l'église de Thessalonique. Et regardons la lettre, donc ces lettres aux Macédoines. De Philippiens d'abord, c'est qu'ici à Saint-Denis, vous êtes en train d'étudier cette lettre. Et notez la différence ici. Il dit, Philippiens 1, Paul et Timothée, quoi? Serviteur. C'est le mot pour esclave. Esclave de Jésus-Christ. Et puis trouver 1 Thessaloniciens 1 encore. Et en fait, 2 Thessaloniciens 1 commencent les deux exactement de la même façon. Paul, Sylvain et Timothée. C'est tout. À l'église des Thessaloniciens. Alors, qu'est-ce qui manque donc dans ces lettres écrites aux églises de la Macédoine? Il manque une référence au fait qu'il soit apôtre. Et Paul, bien sûr, présume cette autorité. Il exerce même cette autorité dans ses lettres. Mais ce que nous voyons, c'est quand, tant qu'on ne force pas sa main, il ne va pas le porter comme un badge qui lui sert à ses propres intérêts. Et ce manque de référence à son apostolat témoigne en fait à la fois de Paul, qui n'a pas besoin de le dire à chaque fois, mais aussi de l'Église et de leur relation envers Paul et de leur amour pour Paul. Parce que quand il y a beaucoup d'amour, on n'a pas besoin d'insister sur son autorité, n'est-ce pas? Quand il y a beaucoup d'amour entre un parent et un enfant, on n'a pas besoin d'insister sur son autorité. L'autorité est là. On n'a pas besoin d'y insister. Et je trouve que c'est une marque d'humilité qu'il insiste sur son autorité uniquement là où c'est nécessaire pour le bien de l'autre. Insister sur son autorité n'est pas un signe d'orgueil. Attention, Paul le fait, comme nous l'avons vu, il le fait avec, surtout avec les Corinthiens et les Galates. Mais il leur dit, c'est vous qui me forcez à le faire. Vous remettez tout ça en question, vous mettez dans une position, maintenant je suis obligé de me défendre, mais je ne me sens pas bien à le faire, je n'ai pas envie de le faire. Vous devez être en fait en train de me recommander plutôt que de me questionner. Mais il ne se sert jamais de son autorité pour son propre bien. Notez cela en 1 Thessaloniciens chapitre 2. Vous y êtes, j'espère, 1 Thessaloniciens. Mais regardez chapitre 2 et le verset 5. Il dit « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous avons eu la cupidité pour mobile. » La Bible de Semeur dit « Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter. » Dieu en est témoin. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. C'est-à-dire, on n'a pas cherché que vous nous glorifiez. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme quoi? Apôtres de Christ. Dans un sens, même Timothée et Silas étaient des apôtres dans ce sens qu'ils étaient envoyés par Christ sur cette mission. Et on aurait pu, on a une certaine autorité avec cela, nous imposer notre autorité sur vous. Mais, regardez le verset 7, mais nous avons été en fait pleins de douceur au milieu de vous. De même, et ça c'est une image surprenante, n'est-ce pas? On pense à l'apôtre Paul qui voyage partout et il dit qu'il est comme une nourrice qui prend tendre soin de ses enfants. Nous avons une mère ici, ce matin, avec son petit bébé. Imaginez la maman avec son bébé. Et Paul dit, c'est ça. Nous étions comme ça parmi vous. Nous aurions voulu, même, verset 8, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous étiez devenus chers. Voyez-vous l'affection, l'amour, l'humilité de Paul? C'était un apôtre vraiment sanctifié par Christ. Et puis une deuxième chose qui ressort de cette lettre concernant Paul, c'est son esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'il était toujours prêt à travailler en équipe, pas garder pour lui-même et tout seul la tâche. Et dans sa lettre aux Philippiens écrite 10 ans plus tard, dans la prison à Rome, Paul parlera souvent de moi ou de je. C'est-à-dire, quand il utilise ce pronom en première personne, c'est souvent dans le singulier. Moi, j'espère, je suis ainsi. Pour moi, vivre, c'est Christ, etc. Mais ce qui est unique dans ces deux lettres aux Thessaloniciens, c'est que quand il utilise le pronom personnel à la première personne, plus de 90 fois, c'est au pluriel. C'est-à-dire, au lieu de dire « je », il dit quoi? Nous. Et nous, c'est bien évident, c'est Paul, Sylvain et Timothée. C'est frappant si vous cherchez ça. Regardez le chapitre 2. On va reprendre 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Et notez toutes ces références à « nous ». Il dit « Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais, nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous tous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, et ça continue ainsi. C'est remarquable, non? Que Paul, quand il écrit, il écrit au pluriel, il pense pas simplement à sa mission envers eux, mais à notre mission. Il pense au pluriel. Paul ne construisait pas son empire à lui. Il avait un esprit d'équipe. Nous voyons son humilité, son esprit d'équipe, et nous voyons ces deux choses, en fait, dans l'exemple de Pierre. Ne cherchez pas, mais il dit dans sa lettre, il parle de lui-même, il parle aux anciens, et il dit ceci: « Moi qui suis un ancien avec eux. » Et Michel Faucheur, ce même homme dont je parlais tout à l'heure, a dit ceci: ainsi Saint-Pierre honorait tous les fidèles ministres de Christ, les traitant comme ses égaux, quand il disait « Je prie les anciens, moi qui suis un ancien avec eux », c'est-à-dire pasteur ou ministre. Tant et lui et Saint-Paul étaient éloignés de l'orgueil de celui qui se dit être leur successeur. Alors nous voyons qu'il ne peut pas s'empêcher de lancer des piques en direction de Rome. Mais il a complètement raison. Parce que ceux qui se disent successeurs de Saint-Pierre s'élèvent au-dessus de tous les autres. Mais Pierre s'abaisse pour être un des anciens. Et troisièmement, nous voyons son investissement dans la vie des autres. Et c'est quelque chose qui ressort surtout dans cette lettre. Et je parle ici, dans le sens d'investissement, de la fixation d'une énergie affective sur un objet, en l'occurrence les Thessaloniciens, qui se trouvent ainsi chargés d'une signification particulière pour lui-même, Paul. Il fixe son énergie affective, c'est-à-dire même ses émotions sur eux. Il s'investit dans leur vie au point qu'il vit un peu au rythme de leur succès. Il est haut quand ils sont hauts. Il est bas quand ils sont bas. Sa propre vie est un peu au rythme de leur succès spirituel. Nous voyons cela, regardez le chapitre 2, revenons au verset 8, 1 Thessaloniciens 2, 8. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Et là, nous voyons que le ministère chrétien, qui n'est pas seulement pour le pasteur, mais chacun de nous, quand on veut investir dans des jeunes, quand on veut investir dans un ami ou une amie, quand on veut investir dans quelqu'un dans la famille, si on veut vraiment avoir un impact sur leur vie, il faut cet investissement même émotionnel. On ne peut pas avoir un ministère d'une façon détachée. Ce n'est pas comme chez le médecin. On peut entrer, on est à mi-mort, il dit, bon, vous allez à la pharmacie, vous prenez ça, et puis c'est le prochain. Il ne va pas mieux dormir ou moins mieux dormir à cause de votre maladie. Il a des conseils à vous donner, et puis c'est tout. Mais si on veut avoir un ministère dans la vie de quelqu'un, il faut être prêt à vivre leur succès et vivre aussi leur chute. Regardez le chapitre 2, verset 17, 1 Thessaloniciens 2, 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur. Là, nous voyons que son cœur était toujours avec eux. nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. » Vous voyez l'intérêt qu'il a. « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois. » Bon, j'expliquerai plus tard cette phrase, mais Satan nous a empêchés. Mais regardez verset 9. « Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ?» Ça, c'est une bonne question. Quelle serait la joie de l'apôtre Paul ? Quelle serait pour lui vraiment une couronne de gloire ? Et quelle est la réponse ? N'est-ce pas quoi ? Vous ! C'est vous ! Aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement. Oui, vous êtes, si vous l'avez raté la première fois, il va le redire, verset 20. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous voyez, sa joie est liée dans le succès de cette Église. Regardez chapitre 3, verset 7. 1 Thessaloniciens 3, verset 7. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Sa consolation dans leur foi. Car maintenant, nous, ça il dit encore plus fort, verset 8. Nous quoi ? Nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Ah ! On vit. Il est lié à ce point à leur succès. Son bonheur est tellement lié à leur succès qu'il dit « Ah, on a eu la bonne nouvelle que vous êtes toujours dans la foi. Ah, je peux vivre, je peux continuer à vivre. » Verset 9, « Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant Dieu notre Père. » Et si nous éprouvons la joie, c'est que nous sommes prêts aussi à éprouver quoi ? La tristesse. Il n'y a peut-être rien de comparable, mes amis, que la tristesse d'un parent pour un enfant qui s'égare. Je ne pense pas qu'il peut être un autre sentiment plus profond. Et c'est ce sentiment qu'avait l'apôtre Paul pour ses croyants. Il va dire aux Corinthiens, parler plutôt de l'autre côté, l'autre émotion, mais il a dit en 2 Corinthiens 11, 29, « En effet, qui est faible sans que je sois faible ? Qui tombe sans que cela me brûle ?» Voyons quelqu'un vraiment investi dans la vie des autres. Et la Bible nous appelle tous à avoir un ministère comme ceci. Mais pour ce faire, il faut s'investir. Je parlais une fois, quand j'étais pasteur en Caroline du Sud, avec quelqu'un. Il assistait à l'église, mais il m'a dit, on s'est vu, il m'a dit, « Je vais vous dire une chose, nous n'allons jamais devenir membres. Nous allons toujours garder notre distance. » Parce que quand j'avais 12 ans, c'est un homme, hein, mais il dit, « Quand j'avais 12 ans, j'étais dans une église avec ma famille et nous avons été très, très blessés. » Et je vous assure, ça ne va jamais se reproduire. Donc pour se protéger, qu'est-ce qu'il fait ? Il garde sa distance. Et ça, c'est la tentation, n'est-ce pas ? Parce que dès qu'on commence à investir dans la vie des autres, on court le risque d'être blessé. Et le chat échaudé craint l'eau chaude, c'est ça ? Craint l'eau. Ah ben, il y a une expression que j'ai oubliée. Et qui parle de cette peur qu'on a de revenir. Et ça, c'est la réaction humaine envers les autres. Ah là, j'ai essayé, j'ai tenté, ça n'a pas bien marché, je garde ma distance. Il faut que le Seigneur nous donne grâce. Paul dit même, il a dit, nous avons beaucoup souffert en Philippe. Il a dit, nous avons dû reprendre courage en Dieu avant de venir vers vous à Thessalonique. Donc un apôtre humble et plein d'amour. Et puis, deuxièmement, regardons donc ses collègues fidèles. D'abord, il y a Silas ou Sylvain. Sylvain était juif, mais comme Paul, de nationalité romaine, on le sait d'ailleurs à cause de ce qui se passe à Philippe. Et après le concile de Jérusalem, qui est raconté en acte 15, verset 22, je vous mets la référence ici, enfin le verset, il dit que les apôtres et les responsables avec toute l'église décidèrent de choisir parmi eux quelques délégués et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent donc Jude, surnommé Barsabas, et Silas. Tous deux jouissaient d'une grande estime parmi les frères. Donc voici quelqu'un qui, à cause de sa réputation, à cause de son œuvre, à cause de son cœur, jouissait d'une grande estime. Quand nous cherchons un ancien, quand nous cherchons un pasteur, nous cherchons quelqu'un qui jouit déjà d'une grande estime parmi les frères. Et il semble que Sylvain et Silas a eu un très long ministère, car Pierre dit dans sa lettre, 1 Pierre 5, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous avez été attaché est la véritable. Et donc il y a Sylvain et avec Sylvain, il y a troisièmement Timothée. Timothée est beaucoup plus jeune à cette époque, très inexpérimenté. Il vient en fait de rejoindre l'équipe quelques semaines auparavant. Durant ce deuxième voyage missionnaire, ça commence avec Paul et Silas, mais ils ajoutent donc Timothée à Lystre. Mais nous savons, vous savez, j'imagine que Timothée aura dans l'avenir un très long ministère auprès de l'apôtre. En fait, la dernière lettre écrite par Paul, juste avant sa mort par décapitation, sera une lettre adressée personnellement à son fils dans la foi, qui est Timothée. Et ce que nous voyons, c'est que ces trois hommes étaient des coéquipiers tout au long du deuxième voyage missionnaire de Paul. Alors quand on lit en acte le récit de Philippe, vous savez, ils ont été jetés en prison. Mais ça ne parle pas de Timothée à Philippe. Il était vraisemblablement absent le jour où Paul et Silas se sont vus attaqués par la foule et puis jetés en prison. Il était peut-être ce jour-là avec Luc, qui avait rejoint l'équipe à Troas juste avant de prendre le bateau vers l'Europe, vers la Macédoine. Et Luc est probablement resté, en fait, à Philippe comme pasteur. Et nous savons cela, si vous lisez en Actes la prochaine fois, vous allez voir que le récit change de « ils ont fait ceci ». Quand ils arrivent à Troas, ça change à « nous ». Nous avons pris le bateau. Et puis jusqu'à Philippe, et puis après Philippe, quand ils arrivent à Thessalonique, encore il dit « ils ». Cela suggère que Luc est resté donc derrière pour avoir un ministère dans l'église à Philippe. Mais nous pouvons présumer que Timothée était avec eux, puisqu'il vient de les rejoindre juste avant, à Lystre. Et juste après, au début du chapitre 17, ils arrivent à Thessalonique. Et Paul dira même aux Philippiens, une dizaine d'années plus tard, il dira: mais vous savez que Timothée a fait ses preuves comme un enfant aux côtés de son père. Il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. Alors Timothée n'a peut-être pas été jeté en prison avec Paul et Silas, mais il a fait ses preuves. Et Paul leur dit, vous le savez. Et Paul dit même dans cette lettre, si vous êtes en Thessaloniciens, regardez le chapitre 2, verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris, et encore le pluriel, comme pour faire référence à Paul, Silas et Timothée ensemble, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Alors, Luc ne parle non plus de Timothée lors de leur visite à Thessalonique, la fondation de cette église. Et il dit même en acte 17 que quand la foule arrive, parce qu'il y a un temps où la foule se fâche, il y a des voyous qui arrivent, ils arrivent à la maison de Jason et ils disent ceci, ils cherchent Paul et Silas pour les amener vers le peuple, ils cherchent ces deux hommes. Alors apparemment Timothée, peut-être par sa fonction d'apprenti, il était peut-être qu'un apprenti à l'époque, et peut-être aussi par sa personnalité, il était plus en retrait. Et donc quand la foule arrive, ils ne connaissent même pas Timothée de visage ou peut-être même pas de nom. Ils cherchent Paul et Silas, les deux prédicateurs du groupe. Il est moins visible donc. Il est moins connu et donc pas recherché par la foule. Mais il était avec eux parce que quand les Juifs de Thessalonique poursuit Paul jusqu'à Bérée, qui est la ville d'après, et le chasse de cette ville. Luc dit ceci en acte 17, il dit « Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, mais Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. » Alors si vous lisez, il faut lire après là, le récit en acte, c'est très très intéressant. Vous savez que Paul donc est laissé tout seul à Athènes. Il n'a ni Timothée ni Silas avec lui. Et c'est là qu'il a un ministère intéressant avec les païens de cette ville. Et il semble que Silas et Timothée l'ont rejoint, comme il demande, dans la ville d'Athènes, assez rapidement. Et c'est là où, ensemble, ils doivent prendre des décisions difficiles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Paul veut retourner en Thessalonique, à Thessalonique, pour voir comment les chrétiens vont. Il leur dit ceci, il leur dit, regardez ici, « Et en ce qui nous concerne, frères et sœurs, étant séparés de vous pour un temps de corps mais non de cœur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous en avions le vif désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, je l'ai tenté à une et même à deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. » Il dit, « Moi, Paul, je l'ai tenté à deux reprises, parce que Timothée va pouvoir le faire. » C'est Paul qui ne va pas pouvoir le faire. Et donc, il continue. Regardez 1 Thessaloniciens 2,19. « Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, chapitre 3, impatients que nous étions et nous décidant de rester seuls où ? À Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. » Apparemment, ni Paul ni Silas, qui étaient trop connus, ne pouvaient retourner à Thessalonique. Le danger pour les chrétiens de cette ville était trop important. Il leur avait payé même un gage à Jason, c'est-à-dire que s'il y a encore de troubles, ils allaient prendre probablement sa maison. Mais voilà que le rôle et le caractère discret de Timothée sont utiles. S'il y va tout seul, il pourra rentrer discrètement dans la ville sans créer de nouvelles émeutes. Et c'est donc ce qui se fait. Regardez chapitre 2, verset 5, 1 Thessaloniciens 2,5. Et ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un. C'est 3-5 peut-être 3-5, je m'excuse. 3-5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est Timothée. Pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Alors imaginez Timothée. Son premier voyage. Il vient de rejoindre, il y a quelques mois, l'apôtre Paul. Et maintenant, Paul l'envoie sur ce qui est vraisemblablement sa première mission, seul, en solo. Alors c'est sans doute un honneur d'avoir été confié cette mission. Imaginez les émotions qui ont dû travailler son cœur en s'approchant de la ville où habitent des Juifs qui ont failli déchirer ses amis, Paul et Silas, en pièces. Et donc il part tout seul. Il a une mission. Sera-t-il fidèle? Est-ce qu'il va tenir le coup? Vous savez que plus tôt, Paul avait dit non à Jean-Marc parce qu'il ne pouvait pas lui faire confiance dans ce type de mission. Est-ce que Timothée va tenir le coup? Et après le départ de Timothée, peut-être au même temps, Silas aussi est envoyé en Macédoine, certainement pas à Thessalonique, mais soit à Bérée et soit à Philippe. Et Paul se retrouve de nouveau tout seul à Athènes. Et c'est de là qu'il va aller tout seul dans quelle ville, vous savez? Il va aller à Corinthe. Tout ça est dans les actes. Et quand il est entré dans leur ville tout seul, il dit plus tard aux Corinthiens, il est dit, « Vous savez, moi-même j'étais auprès de vous, c'est-à-dire je suis arrivé chez vous dans un état de quoi? De faiblesse, de crainte. » Et de grands tremblements. Il est tout seul, il n'a pas ses coéquipiers. Et c'est là où Jésus-Christ doit même venir dans une vision pour le rassurer de sa protection. Il dit, t'inquiète pas, Paul, on ne te fera pas de mal ici. Nous voyons les émotions, la difficulté pour l'apôtre Paul même. Mais nous lisons en Actes 17, verset 5, que Silas, il est à Corinthe, hein, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, Paul se donna tout entier à la parole. Donc il est à Corinthe, il est en train de travailler, mais un jour qui arrive, Silas et Timothée. Et on présume qu'il a pu donc se donner tout entier à la parole grâce au soutien financier que Silas et Timothée ont apporté de la Macédoine, probablement tout particulièrement de l'église à Philippe. Et donc quand ils arrivent, et Paul est content de leur voir, mais ils arrivent avec du soutien financier. Et Paul va dire plus tard aux Corinthiens, là où il était, il a dit, « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient. » Ces frères venus de Macédoine, c'est Silas et Timothée. Et en tout cas, nous savons qu'ils ont travaillé ensemble à Corinthe, car Paul écrit dans sa deuxième lettre inspirée aux Corinthiens, il dit « Car le Fils de Dieu Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non en même temps, mais en lui il n'y a que oui. » Donc reprenons la lecture en 1 Thessaloniciens 3 et verset 6. On a lu le verset 5, regardez le verset 6. Paul, il écrit cette lettre de la ville de Corinthe. Timothée et Silas viennent d'arriver avec apparemment pas mal d'argent. Mais regardez ce qui vraiment soulage son cœur. Verset 6, 1 Thessaloniciens 3, 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous. Ici donc, c'est Corinthe. Apparemment, Timothée a réussi sa mission. Il est parti de Thessalonique pour rejoindre Silas, peut-être à Bérée, se sont retrouvés. Et ensemble, ils ont pris la route pour Corinthe, où ils ont finalement rejoint l'apôtre Paul. Et Timothée nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Désirons nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et dans nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet. C'est-à-dire, quand Timothée est revenu avec cette nouvelle, quelles actions de grâce pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous puissions aller vers vous. Vous voyez l'entraide, vous voyez la camaraderie, la complicité, la solidarité entre ces trois hommes. Paul donne une mission à Timothée et il se montre fiable. Silas a sa mission et il se montre fidèle et sûr. Et c'est grâce à leur fiabilité qu'ils ont l'honneur d'être inclus avec Paul dans la rédaction de cette lettre. Alors, il y a des jeunes ici. Et vous aspirez, je l'espère bien, à être utile à l'œuvre de Dieu. Et qui sait ce que feront un jour les jeunes ici ce matin? Mais êtes-vous fiable? Peut-on vous donner une mission et savoir qu'elle sera accomplie malgré la difficulté? Matthieu 25, 21 dit, son maître lui dit, c'est bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en quoi? En peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Sommes-nous fidèles en peu de choses. Paul avait pu avoir le ministère qu'il a eu, pas seulement à cause de son propre travail, mais parce qu'il avait autour de lui des hommes, et nous lirons dans d'autres lettres, des femmes aussi. À Philippe, il y a des femmes qui ont travaillé avec lui, qui ont été fidèles à lui et à la mission. Alors, pour conclure, que pouvons-nous dire en application? Eh bien, d'abord, nous voyons, par le début de cette lettre inspirée, l'importance de ministre de Dieu dans la vie de l'Église. Ministre, je parle des hommes, des pasteurs, des anciens, des surveillants, comme il est dit ailleurs. Et c'est intéressant, n'est-ce pas, que même ces lettres inspirées viennent de la main des hommes. C'est inspiré par le Saint-Esprit, mais c'est quand même de la main d'un homme. Dieu choisit d'utiliser des personnes dans son œuvre. Ces églises ont été fondées par des hommes. Paul dira plus tard dans cette lettre, si vous y êtes, vous pouvez regarder chapitre 5, 12 et 13. Il dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Donc même dans cette petite assemblée, il y avait quand même ceux qui travaillaient parmi eux, ceux qui les dirigeaient, qui les exhortaient. Il dit, ayez pour eux beaucoup d'affection. Alors imaginez cette église, l'église baptiste de Saint-Denis, ou de Grand-Roissy, sans ministre, sans pasteur, sans aucun ancien. Nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a richement bénis avec plus qu'un seul. Dieu choisit, c'est sa façon de faire l'Église, si vous voulez, en utilisant des ministres. Et puis, si vous êtes encore dans le chapitre 5, le verset juste après, je dirais, c'est l'importance d'être des ministres de Dieu dans la vie de l'Église. C'est vrai, il y a des pasteurs ou anciens, il y a des dirigeants, il y a ceux qui dirigent, mais nous sommes tous appelés à être des ministres, c'est-à-dire tous appelés à participer à la vie de l'Église. Il dit juste après, 1 Thessaloniciens 5,14, « Nous vous en prions aussi, frères », c'est-à-dire, je ne vois pas ici aux anciens et aux ceux qui dirigent, mais vous aussi, c'est-à-dire tous les frères et sœurs, « avertissez ceux qui vivent dans le désordre », consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc tout le monde, il a dit, vous avez cette responsabilité d'avertir, de consoler, de supporter les faibles, de montrer la patience. Tout le monde fait le ministère. On n'a pas besoin d'un titre, on n'a pas besoin d'un badge pour faire le ministère de Dieu dans son Église. Il nous appelle tous à le faire. Tout le monde est appelé à être actif pour le bien-être de tous. Et avec ceci en tête, lisons 1 Thessaloniciens 2,19. Juste pour vous encourager, ce sera le dernier texte. 1 Thessaloniciens 2,19 et 20. Quel est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alors vous dites, moi je vis pour, je ne sais pas, pensez à quelque chose, je vis pour le succès dans ma carrière professionnelle. Aurez-vous ce succès devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Ah, moi je vis pour une belle maison, une belle voiture. Aurez-vous cette belle maison devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut avoir devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut prendre avec nous au ciel. C'est pour ça, il dit verset 20, oui, vous êtes. C'est des personnes. En tant que parents, nous sommes appelés à nous investir dans nos enfants. Ils seront, Dieu voulant, notre joie et notre couronne au jour de son avènement. si Dieu, dans sa grâce, les sauve. Si vous n'avez pas d'enfants, Dieu peut vous donner, comme il a donné à Paul, qui n'avait pas d'enfants physiques, des enfants spirituels que vous pouvez prendre au ciel avec vous. Vous pouvez investir pour que votre joie soit trouvée en eux. Est-ce qu'il y a un risque? Oui, il y a le risque qu'on porte aussi leur souffrance et leur chute, qu'on soit brûlé quand ils tombent. Mais il y a aussi une grande joie de se retrouver un jour ensemble dans la présence du Seigneur et d'être là, pas tout seul, mais avec ceux dans la vie desquels nous avons eu un ministère. Ne dites pas « je ne peux pas avoir un ministère ». Vous pouvez avoir un ministère dans la vie des autres. Et si vous n'êtes pas en Christ, eh bien, ce premier verset nous dit un peu en résumé ce qui était leur message. Quand il dit que la grâce et la paix vous soient données. Ça, c'est ce qu'ils apportaient aux gens. La grâce et la paix du Seigneur Jésus. Connaissez-vous Jésus? Et si oui, êtes-vous engagé dans la vie de l'Église en tant que ministre fidèle, humble, et plein d'amour pour les autres. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Prions.